égalité, fraternité.
République Campus
88.3 FM, radio associative, loi 1901.
Sans doute faites-vous allusion à ce mouvement lancé à grand renfort de publicité qui, à nos yeux, n'a pas d'autre objectif que d'entraîner la classe ouvrière dans des aventures en s'appuyant sur le mouvement des étudiants.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Je sais que des fois c'est dur, Laurence. Et que le temps passe vite. Je ne serai pas toujours l'enfant que tu n'as pas encore.
Mais faisons la fête un peu encore. Faisons la fête un peu encore. Faisons la fête un peu encore.
Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Et bonjour à toutes et à tous, il est midi 4 sur Radio Campus Orléans. Vous êtes bien dans l'émission Écoute ta fac. Et comme chaque jour, on commencera par... Non, en fait, pas comme chaque jour. Aujourd'hui, petite exception, le Flash Actu devient le point étudiant désormais. On s'arrêtera donc sur un point de l'actualité du monde des étudiants chaque jour. Puis après, on va enchaîner avec le rendez-vous Bam Bam Bam, c'est la question femme que vous retrouvez chaque jeudi dans l'émission Écoute ta fac. Aujourd'hui, on parlera de harcèlement de rue. Et puis en deuxième partie d'émission, on enchaînera avec le dernier épisode de votre instant reportage, une série de reportages cette semaine consacrée à au Fab Lab de l'Université d'Orléans. Voilà, c'est le programme du jour dans Écoute ta fac et c'est parti en musique.
Thank you. m'a couronné roi de France depuis l'enfance. Et de l'aveuglement que de toi voir mon aisance. Ah, roi au pied nu, appelez-moi donc Seigneur Ubu, Dada, surréaliste, quoi m'as-tu vu? Je suis le roi semeur comme UNESCO, si t'as lu. Ah, ah, entre le rap et la culture, je te rapture, capture, goûte à ma littérature. Mon mic et mon sceptre et mon bâton de Moïse. Wallen, la reine, fut ma nouvelle Héloïse. Je te braque avec mon art comme une peinture de braque. On est des grands faux faits de briques et de broc. Ta condescendance, moi je m'en moque. Tellement fier de mon ascendance et je révolutionne toutes sortes de symboles afin que les frères et sœurs deviennent des bonhommes. Hors norme, normal, puisque je porte une couronne, grosse tête, non, j'ai un grand cœur. Moi-même, comme un autre, comme Paul Ricoeur, abandonne la rhétorique de ceux qui sucent la peur. Trop de confusion, populaire, populiste, illusion, assassine, note mon nom sur ta liste. Comme ceux qui ne trahiront jamais, jamais, je ne ferai de rap académique. Abdelmalik au secours de la République du rap. Et puis c'est même pas ironique, je m'appelle Abdelmalik, normal que mon symbole soit celui de la fleur de lys. Au départ je me nomme Régis, et puis c'est même pas ironique, je m'appelle Abdelmalik, normal que mon symbole soit celui de la fleur de lys. Au départ je me nomme Régis. On m'a couronné roi de France depuis l'enfance, et de l'aveuglement que de pas voir mon aisance. Regarde, comme je quitte, noblesse oblige, déconstruire les murs que l'on érige. Jusqu'à mon dernier souffle, ok, donner de l'espoir à ceux qui n'en ont pas, qui n'en ont plus. Le monde est ainsi fait, chacun se replie sur ses peines, et la haine veut nous faire croire qu'on est tout seul à croire en l'avènement de la possibilité d'un monde meilleur, errant savamment dans l'ignorance de l'autre. Je devrais nous aimer, seul l'amour peut sauver l'humanité. L'humanité. Et puis c'est même pas ironique, je m'appelle Abdelmalik, normal que mon symbole soit celui de la fleur de lys. Au départ je me nomme Régis. Et puis c'est même pas ironique, je m'appelle Abdelmalik, normal que mon symbole soit celui de la fleur de lys. Au départ je me nomme Régis. Quoi qu'ils disent, je suis le roi de France. Je suis le roi de France, ok. Quoi qu'ils disent, je suis le roi de France. Je suis le roi de France, ok. Quoi qu'ils disent, je suis le roi de France. Je suis le roi de France, ok. Quoi qu'ils disent, je suis le roi de France. Je suis le roi de France.
Et après cet instant musical, c'est désormais de prendre le temps de s'intéresser aux étudiants qui sont pour la plupart en vacances. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur la hauteur des prêts étudiants qui sont rattrapés par l'inflation. Mauvaise nouvelle pour les bacheliers 2023 qui compteraient faire des prêts étudiants cet été, puisque les taux d'intérêt des crédits étudiants s'envolent, des chiffres qui ne permettent pas pour les étudiants d'envisager des études sereinement. Sur 60 mois, le coût d'un crédit de 15 000 euros est ainsi passé de 307 euros en 2022 à un taux de 0,80%, c'est-à-dire à 735 euros cette année. Et on a même... Excusez-moi, je vais plutôt reprendre les chiffres. On est passé pour un prêt de 15 000 euros à 307 euros en 2022 que l'étudiant devait verser chaque mois, soit un taux de 0,80%. À 735 euros cette année qui doit être versée, et donc le taux s'élève aujourd'hui à 1,90%. Je ne sais pas si vous voyez la situation et si c'est assez clair pour vous, mais passer d'un taux de 0,80% à 190%, ça fait une sacrée différence. À 1,90%, ça fait une sacrée différence. Désormais, pas réveillé aujourd'hui. Voilà, une situation qui, vu la multiplication des situations de crise, n'est pas prête de s'améliorer, donc... Voilà, c'était tout pour ce petit point étudiant, un peu galère au niveau des chiffres. Pour passer à la suite de l'émission, et avant votre instant, bam bam bam, c'est la question femme, on continue d'enchaîner en musique.
Je dirais c'est bien fait. Et bam,
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 c'est la question femme.
Remarquez que le harcèlement est défini de quatre façons différentes. Alors, on a le harcèlement sexuel qu'on peut retrouver dans légalement. On a également le harcèlement sexuel dans le code du travail et dans le statut général de la fonction publique, donc dans le milieu du travail. On a le harcèlement moral dans le code pénal et le cyberharcèlement qu'on retrouve également dans le code pénal. Mais concernant le harcèlement de rue, on va plutôt parler d'outrage sexiste et sexuel, Faustine.
Exactement. Et depuis le 1er avril 2023, on parle même d'outrage sexiste ou sexuel aggravé, qui n'est d'ailleurs plus considéré comme une contravention, mais comme un délit. Et ça, c'est important, parce que si c'est plus une contravention, mais si c'est un délit, ça s'aggrave, et notamment au niveau des amendes. Donc c'est important quand même à voir. Mais déjà, qu'est-ce qu'un outrage sexuel ou sexiste ? Donc, l'outrage sexuel ou sexiste, ça consiste à imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation sexiste ou sexuelle qui porte atteinte à sa dignité ou qui l'expose à une situation intimidante, hostile ou offensante. Et la peine applicable, elle est d'une amende de 1500 euros. La différence avec l'outrage sexuel ou sexiste aggravé, c'est que ce propos doit être mis dans des circonstances qui ont été bien délimitées. Par exemple, une personne qui abuse de l'autorité qui lui confère ses fonctions. Et on a toute une liste, hein, une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 critères de situation où que vous pouvez retrouver sur le site du gouvernement qui vous dit si vous êtes sur un outrage sexiste ou sexuel aggravé et que vous pouvez donc punir, qui devient donc un délit et qui est puni d'une amende de 3750 euros.
Merci Faustine pour cet éclaircissement juridique. Alors peut-être maintenant parler un peu plus des expériences. On va entendre dans cette partie quelques témoignages qu'on a pu recueillir dans les rues, savoir si les gens ou pas avaient été confrontés à du harcèlement de rue. Vous vouliez vous aussi en parler ?
Moi, j'ai subi quelques expériences effectivement dans le harcèlement de rue. À la base, moi, je suis de la campagne, donc j'ai subi ces outrances assez tardivement. Mais elles sont quand même arrivées quand j'étais encore mineure, donc c'est assez inquiétant. Toi, t'étais mineure la première fois que t'as subi le harcèlement de rue ?
Ouais, j'ai déjà eu du harcèlement de rue mineure. Après, moi, j'ai vraiment vu la différence quand j'ai commencé à habiter seule, c'est-à-dire cette année.
Pareil.
Ah ouais, bah tu habites seule, c'est-à-dire que tu te déplaces seule. Plus j'étais en ville, bon après j'ai toujours été en ville, mais mes parents venaient souvent me chercher, etc. J'ai déménagé, je suis allée dans une autre ville, je suis allée à Dijon. Et franchement, je pense que si je fais une moyenne, je suis bien à au moins, grand minimum, un harcèlement de rue toutes les deux semaines.
Hein. Un toutes les deux semaines ?
Je crois grand minimum.
À Orléans, dans des rues, je pense à rue de la République. Ça peut arriver à chaque fois que tu sors littéralement. Moi, je sais que après, ça dépend ce que tu appelles harcèlement de rue aussi, parce que c'est aussi un regard, quelqu'un qui se mord les lèvres en te regardant et en te faisant comprendre que tu lui donnes envie. Enfin, pour moi, c'est du harcèlement de rue.
Oui,
je le vis
d'accord.
Pas bien et je me sens comme un objet. Ça peut arriver très très régulièrement.
Ouais. Bah, je suis d'accord. Moi, je pense que je suis même à plus. Après, je fais quand je marche, en général, je suis dans ma petite tête, j'ai mes écouteurs et je fonce. Mais les regards aussi, Enfin, il y a regard et regard, comportement et comportement. Et se mordre les lèvres en regardant quelqu'un, ne faites pas ça. C'est du harcèlement de rue, vraiment. C'est très désagréable. On n'aime pas ça.
Et ce qui serait intéressant de parler aussi, c'est
des expériences peut-être.
C'est ce qu'on est en train de faire. J'ai perdu ce que je voulais dire. C'est pas grave, ça, je vais couper, je vais mettre.
Je comprenais pas
monter.
Du tout ce que tu me disais.
Il
m'a regardé, j'étais en mode, il veut une relance.
Mais je sais pas ce que j'ai plus de vocabulaire là. Genre, j'ai l'impression de dire ça des mots pas du tout adaptés.
Mais moi, j'ai oublié un truc.
Ouais, je sais pas, t'as oublié.
Et ce dont il serait intéressant de parler aussi, c'est que, comme vous le disiez, en fait, on peut être mineur et victime de harcèlement de rue.
Exactement. C'est même super récurrent. Il y a des études qui montrent qu'en fait, plus t'es jeune, plus tu risques de subir du harcèlement de rue parce que tu es entre guillemets, et je mets des gros guillemets sur cette mot de proie facile, parce qu'évidemment ce n'est pas une proie, c'est une personne que vous adressez. Il n'y a pas de proie ou prédateur, il faut retirer vraiment ces mots de ce vocabulaire.
D'ailleurs, il n'y a pas de tenue non plus pour se faire agresser. Je me souviens être sur le chemin pour aller au lycée, j'avais encore 16-17 ans. Une voiture qui passe à côté de moi, pareil, qui se mord les lèvres, ou alors des hommes qui travaillaient dans une usine juste à côté qui m'ont sifflé alors qu'ils étaient trois, ils avaient l'air d'avoir environ la quarantaine. J'étais en tenue de sport, vraiment gros jogging, etc. Seule dans une rue sans témoin, dans cette même rue d'ailleurs, ça m'arrivait trois fois en fait dans cette même rue, donc il y a peut-être des lieux un peu plus chauds que... que d'autres.
C'est ça qui est terrible, c'est qu'on remarque les lieux en fait et on apporte des stratégies. Hein.
C'est ça, oui, en parlant de stratégie, j'avais lu quelque chose sur Instagram, la source de tout le monde visiblement. Une fille qui disait qu'il y avait une étude, je crois, sur les femmes qui, quand elles savaient qu'elles allaient prendre le métro, se mettaient dans une tenue spéciale parce qu'elles savaient que dans le métro, c'était un lieu justement où ça risquait de leur arriver plus. Est-ce que toi, tu t'es adaptée? Tu as des techniques maintenant?
Moi, c'est que de la stratégie. Hein. Ça me fait vraiment chier parce que... Enfin, je suis désolée, je dis les termes. Hein. Ça me saoule.
Reprends-toi.
Je me reprends. Ça me saoule, tout à fait. On va être plus poli, mais vous voyez ce que je veux dire.
Quelle stratégie est-ce que tu as mis en place
Mais niveau stratégie, déjà, il faut savoir que peu importe la tenue, moi, je me fais tout autant harceler.
Ouais.
C'est surtout que moi, ce n'est pas une réflexion en fonction de est-ce qu'on va plus m'harceler ou pas en fonction de ma tenue. C'est en fait... Dans quelle tenue est-ce que je serai à l'aise pour réagir, pour courir,
pareil,
pour machin?
Les chaussures à chaque fois.
Les chaussures, c'est-à-dire que je ne vais pas en soirée en talons. Je prends mes petits talons dans mon sac si jamais j'en veux et je vais en basket avec un pantalon sur lequel je peux courir, machin, etc.
Pareil.
Moi, je me refuse d'avoir des armes, littéralement. Enfin, parce qu'il y en a qui prennent des poings américains, des bonbons au poivre, etc.
Moi, j'ai ça, personnellement.
Ouais. Ouais. Bah, normalement, tu vois, genre, t'as pas le droit légalement.
Moi, je la porte pas sur moi, mais j'en ai une chez moi que j'oublie toujours de mettre dans mon sac.
Ouais, bah normalement, la bombe au poivre, c'est pas légal d'avoir ça sur soi.
C'est vrai?
Ouais. Bon, les policiers laissent passer en général parce que bah, ils savent pourquoi tu le prends. Mais normalement, tu n'as pas le droit. Je crois que c'est considéré comme une arme blanche, mais il faudrait vérifier mes propos, je n'en suis pas certaine. Mais en tout cas, moi, je le refuse, non pas parce... En fait, tout simplement parce que je fais un message de prévention. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir... Enfin, c'est très bien. Si ça vous rassure, voilà, etc. Mais si vous la sortez, en fait, si vous avez deux mecs devant vous, même un, qui est plus fort que vous et qui vous prend l'arme que vous avez...
Ça
se retourne contre toi parce que non seulement t'as pas su te servir de ton truc, mais en plus, il va s'en servir contre toi. Il a un nouveau truc pour te faire du mal. Moi, ce que je compte m'acheter, c'est par exemple une alarme. Parce qu'en fait, il peut pas me taper avec une alarme.
Un sifflet.
Ouais, non, pas un sifflet, parce que imagine, tu te fais prendre par le cou. En fait, t'as une action. Il faut savoir qu'il y a des porte-clés où en fait, tu déclenches le truc et ça ne s'arrête pas.
Je trouve ça triste.
Ah, oui.
Parce qu'en dehors des stratégies, il y a aussi une paranoïa qui s'installe. Hein.
Ah,
moi, personnellement, le soir quand je rentre, et même des fois pendant la journée, je me retourne 10 fois sur le trottoir pour être sûre. Des fois, ça m'arrive de croiser le regard d'un homme sur le trottoir en face. J'ai peur que vu qu'on a eu ce eye contact là, qu'ils se disent ah, j'y vais. Parce que mine de rien, je sais que le eye contact, enfin moi, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est souvent ce qui déclenche ce truc. Tu regardes ton environnement, tu croises le regard de quelqu'un et hop, il se dit « Ah, c'est
ouais,
un signe pour venir vers elle ».
Ça m'a rendu super triste cette année notamment parce que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui sourit beaucoup, même aux inconnus dans la rue. J'aime bien faire des sourires aux gens. Moi, je sais que quand on me sourit, ça m'égaye un petit peu ma journée, etc. Et en fait, depuis cette année, parce que j'ai eu des... Parce que justement, je pense aussi que j'ai grandi... Et que même je m'habille plus comme une gamine. Puis je suis passée de lycéenne à étudiante. En fait, dès que je souris à quelqu'un, c'est plus le sourire d'une enfant qu'ils ont devant eux, c'est le sourire d'une femme. Et donc, si une femme leur sourit, Ils viennent. Moi, j'ai eu des expériences où juste j'ai souri et tout de suite, la personne est venue. Ouais, comment ça va, ma belle et
c'est
tout.
Une excuse.
Et moi, je suis en mode. Je voulais juste, en gros, être sympathique. Après, voilà quoi.
Je me souviens avoir été dans le tram et il y avait un mec avec son vélo et sa roue de vélo, alors qu'il avait plus tapé beaucoup sur moi, en fait, sur mon écharpe. Et c'était crade, quoi. C'était humide, etc. Et il s'excusait à plusieurs reprises parce que son vélo m'a tapé à plusieurs reprises. Et moi, je lui ai souri. Je lui ai dit, t'inquiète, c'est pas grave. Enfin, c'est bon, l'écharpe, je la lave. C'est heure de pointe. On est tous serrés dans le tram. Et je sors du tram tranquillement, écouteurs. Je commence à rentrer chez moi. Et pour rentrer chez moi, je dois sortir rue de la Rep. Et après, m'enfoncer dans d'autres petites rues. Je prends un peu des raccourcis parce que je veux rentrer chez moi. Et là, je vois le mec, il monte sur son vélo. Il n'est pas très rapide. Donc, je commence à me dire, instinct féminin, t'as l'habitude que ça t'arrive, donc à un
instinct
moment...
Instinct d'harceler, même, j'ai envie de dire.
Oui, bon, instinct de victime. Donc,
super hashtag. Hashtag instinct de victime.
Instinct de victime, oui. Je commence à marcher, et là, je vois, il n'est pas très rapide. J'avance, et là, je sens une présence un peu autour de moi. Donc, je commence à tourner dans la rue dans laquelle je tourne d'habitude. Et là, il était un peu passé devant moi pour faire genre qu'il ne me suivait pas et tout. Et là, il avance tout droit dans la rue de la Rep. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. Et je vois qu'il se retourne et qu'il n'y a rien. Moi, en fait, c'est un passage assez large, donc j'ai pu voir qu'il fait demi-tour. Il me suit dans cette petite rue où est-ce qu'il y a littéralement aucun témoin, en fait. Il me dit « Tu fais quoi ?» Je lui dis, moi, je suis obligée de dire en fait ce que je fais. Parce que j'avais pas prévu qu'on allait me. Je lui dis, je rentre chez moi en fait. Ouais, c'est la pire chose à dire. Littéralement
là,
trop honnête.
Tu vois ce que t'es en train de dire. T'es en train de dire, en fait, j'aurais dû pour ma sécurité adopter une stratégie.
Mais c'est ça. Mais c'est juste que t'as envie d'être tranquille en fait.
Ouais,
tu rentres chez
toi,
tu viens de finir ta journée, t'as pas envie de mentir, enfin, je sais pas.
Ah non, mais il y a plein de
trucs.
Il me
dit, tu t'appelles comment ? Et pareil, encore une fois, trop honnête, je dis mon nom en fait. Il me dit, mais je crois que je lui ai dit que j'allais voir mon mec, un truc comme
ouais.
ça pour le.
En général,
j'avais pas de copain
l'argument.
À l'époque. Donc, littéralement, le seul mensonge qui m'est venu en tête, et je sais que c'est super triste, parce que. La seule façon pour qu'il te lâche, non, pas la seule en vrai. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pour qu'il te lâche, c'est de dire que t'as quelqu'un justement. Et je me souviens, je lui dis, je vais voir mon mec. Et il me dit, tu vas voir ton mec ? Je fais oui, je vais voir mon mec. Toi, t'as un mec, toi ? Ouais, j'ai un mec. T'as un mec, toi ? Ouais, j'ai un mec. Ah ok. Et il a fait demi-tour.
Ouais, et là, c'est ça qui est terrible aussi, c'est que la barrière, c'est pas le nom, c'est
genre,
il y a déjà un homme, genre
il
et
va
pas ça
te respecter
pas
toi en,
plus, hein.
En fait, il va respecter son pote le mec,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Tant, on s'en fout en fait, t'es un objet littéralement,
ouais.
Donc.
Mais tu vois, ça aussi, ça me rend triste parce que moi, j'aimerais bien aussi dire que je suis pas contre la drague. Si vous voulez, enfin.
Oui, c'est ça. Ça, c'est un grand débat, ça.
Ouais.
Mais du coup, comment on fait pour vous aborder si on peut pas vous parler dans la rue ?
Exactement. En fait, il y a des manières de dire entre dire ouais, ça va et bonjour, excuse-moi, je te trouve jolie. Peut-être que tu, enfin, t'as l'air de, je sais pas, je t'ai vu lire un truc, etc. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie ? Ça peut être sympa, tu vois.
Ouais.
Par contre, et puis surtout, il y a des heures pour aborder les gens. Moi, typiquement, j'ai eu des gens qui m'ont suivie à plus de minuit 30
mais
pour
oui.
me dire. Est-ce qu'il y a des bars sympas ? J'étais toute seule, je rentrais chez moi. Le mec, il m'a suivi sur 100 mètres pour venir me voir. Je suis en mode, non, tu viens pas
mais
m'aborder.
Personnellement, je pense qu'il y a un peu cette idée de... un harceleur aime bien sentir qu'il fait peur.
Ouais.
Je me sens avoir fait 2 mètres dans la rue. Il fait noir, tu vois que je suis seule, tu vois que je suis petite. pourquoi est-ce que tu me dis, je suis là, je suis là.
Ouais.
Enfin, c'est pas du tout rassurant, tu te doutes. En plus, il n'était pas tout seul, ce mec.
Moi, je crois qu'ils aiment bien le sentiment de domination.
C'est ça. En parlant de stratégie, peut-être qu'on peut aborder des méthodes au cas où on soit sujet à ce genre de problématique. C'est ça. Il me semble que tu avais une petite technique. Parle-nous-en, tu sauras mieux l'expliquer que moi.
Eh bien, oui. En fait, il existe une technique francophone, donc c'est la méthode des 5D. Donc, le petit slogan, c'est quand c'est la D, tu choisis un D. Et donc, qu'est-ce que vous avez dans la méthode des 5D ?
Mais c'est quoi la méthode des 5D, Faustine ?
Et bien, la méthode des 5D, c'est 5 verbes qui commencent par D, qui puissent vous aider quand vous êtes témoin, cette fois-ci, de harcèlement de rue. Mais si jamais vous êtes victime, n'hésitez pas aussi à utiliser ces techniques pour essayer de transformer la chose.
Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là, on parle depuis tout à l'heure qu'on est victime, mais ça peut arriver de...
D'être témoin
et de ne pas témoin. Savoir quoi faire, moi,
et
personnellement.
Et surtout, il faut agir, il faut intervenir, vous, toujours en sécurité, et c'est pour ça que la méthode des 5D, elle est très utile.
Parce que ça m'est déjà arrivé, moi, de me faire harceler, que personne réagisse, parce que...
Ouais, c'est très régulier.
Parce que personne ne sait quoi dire, même en famille, ça m'est déjà arrivé de me faire harceler, enfin... Oui, harceler, clairement. J'allais dire, j'allais relativiser, mais clairement, non. C'était relou. Je l'ai vécu comme un harcèlement. Donc... Et personne n'a su quoi dire. Donc, comment réagir, dis-nous ?
Eh bien, le premier D des 5D, c'est distraire. Donc, distraire, c'est typiquement aller voir la personne et dire « Ah, oh, coucou Stéphanie, ça fait trop longtemps ouais. !»
C'est assez, ça commence à se répandre, ça. J'ai
Exactement.
Eu plein de témoignages de garçons qui sont allés voir des filles, même s'ils ne les connaissaient pas, pour prendre et leur ouais. défense.
Il y a de ça, il y a distraire, ça peut être faire tomber son café. Faire tomber ses clés, demander son chemin, demander l'heure, tomber, tout simplement.
Éternuer, même, d'une manière bizarre.
Demander où est la pharmacie parce que vous avez le Covid, je sais pas. Enfin, bref, c'est, en fait, distraire, ça permet de casser la situation ouais. de harcèlement. Et la victime, si elle peut partir, elle part. Ensuite, déléguer, c'est-à-dire que vous voyez une situation de harcèlement. Je sais pas, vous êtes dans le métro. Vous ne pouvez pas agir seul parce qu'il s'agit d'un gros gaillard de 2m10 qui vous fait peur. Et puis même s'il vous fait pas peur et qu'il est moins gaillard, n'hésitez pas à déléguer. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des personnes, surtout que les personnes, en fait, comme on disait tout à l'heure, elles, des fois, elles ne vont pas agir tout simplement parce que personne ne leur a dit. En fait, c'est un peu l'effet de mouton.
Il y a un effet de groupe. Hein,
c'est ça, c'est
quand quelqu'un agit, tout le monde se met à agir. Quand personne agit, personne agit.
Exactement. Et ça, il faut casser. En fait, il faut que ce soit vous qui cassiez parce que personne ne cassera à votre place. Donc, déléguer, c'est aller voir quelqu'un dire « Excusez-moi, vous voyez bien la situation, c'est compliqué. Est-ce que vous pouvez venir avec moi pour intervenir ?» Et là, vous, déjà, une supériorité numérique. Si vous êtes 10 contre 1 contre l'agresseur, eh ben, à un moment donné, 10 contre 1, il ne pourra pas faire grand-chose. Si vous êtes tout seul, vous pouvez aussi déléguer en appelant. Donc, c'est-à-dire appeler la police, par exemple. Vous avez aussi des organismes féministes, mais dans une situation immédiate d'harcèlement, n'hésitez pas à appeler la police. Ensuite, il y a documenter. Donc documenter, moi au début je comprenais pas trop le concept de documenter. C'est-à-dire on prend son téléphone, on filme, on fait des vidéos, on fait des enregistrements audio. Je me disais mais pourquoi c'est un petit peu humilier la victime ? En fait non, documenter c'est dans l'esprit de donner à la victime des preuves au cas où elle veut former un dossier pour ensuite porter plainte. Et c'est donc aller voir la victime ensuite pour lui dire tiens, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des photos, j'ai fait des enregistrements audio, tu peux les garder si jamais tu veux porter plainte. Ça vous permet de ne pas intervenir dans la situation, de ne pas vous faire voir par l'agresseur, encore faut-il que vous soyez quand même discret, mais dans cette situation, vous n'interagissez pas physiquement. Et donc ça, c'est important, et surtout, si la victime ne veut que les photos, vidéos ou audio soient supprimées, on supprime, on ne pose pas de questions, et surtout, on ne diffuse pas. C'est de l'ordre du droit de la victime.
Tout à fait.
Donc voilà. Ensuite, un autre D. Diriger. C'est-à-dire que là, c'est la solution auquel on peut penser naturellement. Diriger, c'est intervenir. C'est-à-dire que je dirige la situation, j'interviens physiquement ou par la parole. Non, agresseur, agresseuse, vous arrêtez. La personne ne veut pas, n'est pas en capacité de consentir. Elle a dit non. Vous voyez bien que vous la mettez mal à l'aise.
Mais c'est
maintenant,
vous
arrêtez.
C'est une sorte de confrontation, finalement.
Exactement. Diriger, c'est intervenir, c'est confronter la situation. Ensuite, on a dialoguer. C'est le dernier dé. Dialoguer, c'est aller voir la victime et parler avec elle en lui disant « Ce n'est pas ta faute. Le harcèlement de rue, tu es victime ici. » Parce qu'en fait, il faut le savoir, moi-même qui en ai vécu et pourtant qui connais quand même typiquement, enfin je connais bien la théorie, qu'est-ce que le harcèlement de rue, qu'est-ce qu'une violence sexiste et sexuelle, etc. Je me sens toujours coupable en premier recours. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi est-ce que je lui ai souri ? Pourquoi est-ce que machin ? En fait, non, t'es pas coupable.
Dialoguer et distraire, c'est bien différent. Dialoguer, c'est vraiment après.
Ouais,
après
dialoguer, c'est après.
C'est pendant, on peut aller voir la victime.
Aussi, c'est aller voir la victime. Et ça peut être d'abord distraire et ensuite dialoguer.
Ok.
On peut mettre plusieurs dés en même temps. Ça peut être documenté et ensuite dialoguer.
Entendu.
Ça peut être dirigé et délégué.
Ok, oui, on peut faire aussi d'autres choses.
On peut prendre plusieurs dés.
Même documenter et confronter.
Soyez
gourmands en dés. Mais sur ces belles paroles, j'espère qu'on vous a aidé un peu, si jamais vous êtes témoin ou victime d'une agression, ou alors que vous êtes reconnu dans nos... Enfin, j'espère pas, mais si jamais vous êtes reconnu...
Sachez que vous n'êtes pas seul.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais, sachez que vous n'êtes pas seul, que ça arrive, c'est très commun. Voilà.
Et on va terminer ce petit podcast avec quelques fins des micro-trottoirs qu'on a pu réaliser. Je vous laisse écouter et puis on se retrouve pour un autre épisode bientôt.
C'est ça.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Et vous vous en doutez, les fins de micro-trottoirs ne seront pas cette semaine, mais la semaine prochaine. En fait, on en a tellement eu qu'on organisera du coup le Bam Bam Bam, c'est la question femme, partie 2, harcèlement de rue, micro-trottoir, jeudi prochain. Voilà, voilà. Et puis désolé pour les quelques soucis techniques que vous avez pu entendre dans cette interview. J'espère que vous l'aurez pris avec amusement. On va continuer l'émission en musique avant de retrouver votre instant reportage du jour et la troisième partie de découverte du Fab Lab. Voilà, mais avant ça, un petit titre Jackson, c'est ça?
Ouais, on poursuit avec Frasement des Guy Barry. Thank you.
Thank you.
Et après cet instant musical, on poursuit avec le reportage du jour et la troisième partie qui est aujourd'hui consacrée au Fab Lab.
Tiens, tiens, c'est le reportage du jour.
Radio Campus 88.3, dernier épisode de cette série consacrée à la découverte du Fab Lab numérique. Voilà, on dirait on a trop souvent dit Fab Lab au cours des derniers épisodes. Maintenant, nous parlerons du Fab Lab numérique à Polytech Orléans. Donc, l'émission a été enregistrée, le reportage a été enregistré le vendredi 7 juillet avec Clarisse Novello, responsable du Fab Lab numérique de Polytech Orléans. Elle est par ailleurs technicienne électronicienne. Bonjour Clarisse.
Bonjour Daniel.
Alors, au cours de cette dernière visite, vous allez nous présenter plusieurs objets qui ont été conçus ici au Fab Lab numérique, et notamment cet escalier en colimaçon qui est la réplique d'un escalier du château de Chambord.
Tout à fait, c'est l'escalier à double révolution, donc imaginé par Léonard de Vinci. Donc, nous avons travaillé en 2016 avec le château de Chambord. Nos étudiants et puis nos chercheurs sont allés sur place numériser cet escalier. Ensuite, ils ont développé l'algorithme justement pour le reconstruire. Et en effet, pour le reproduire, il faut bien passer par le Fab Lab. Donc ils sont venus me rencontrer et j'ai imprimé cet escalier. Nous avons actuellement 4 exemplaires, donc 3 au château de Chambord. Et si vous allez le visiter en ce moment, il est encore en exposition.
Alors, on le rappelle pour nos auditeurs auditrices qui n'auraient pas écouté les précédents épisodes, mais le Fab Lab est donc le laboratoire dans lequel les étudiants vont pouvoir mettre en place des projets. C'est ce dont il s'agit, hein. C'était une commande du château de Chambord. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu en arrière, notamment sur cette modélisation en 3 dimensions qui a été nécessaire avec une échelle de plusieurs mètres quand même. Enfin, l'original est bien plus grand que cette miniature. Comment c'est faite la modélisation?
Alors la modélisation, en effet, il faut aller sur place et numériser. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fin de compte, ça veut dire donc prendre des photos, en quelque sorte, un des milliers de photos, et ensuite les placer les unes à côté des autres pour reconstruire cet escalier en 3D. Et donc pour le reconstruire, tout ne se fait pas, c'est automatiquement, hein, c'est l'ingéniosité de nos étudiants, donc quand ils ont développé l'algorithme, donc développé un programme qui permet ensuite à l'ordinateur de calculer, de reconstruire cet escalier en 3D.
Avec de simples photos ou alors avec des appareils photo spécifiques?
C'est plutôt un appareil photo très spécifique que l'on appelle maintenant donc un scanner 3D.
D'accord, il s'agit de plus d'un scan, presque d'une vidéo en quelque sorte.
Oui, on peut dire cela aussi.
Alors quand je parlais de vidéo, je pensais à celui qui prenait l'image. Donc en mouvement, il est capable de faire le tour de chaque colonne. C'est ce qui a été nécessaire quand même.
Oui, tout à fait, oui.
Donc tout commence sur le terrain, un travail de terrain avec des outils, des scans, puisque c'est de ça dont on parle. La construction d'un algorithme, enfin l'élaboration d'un algorithme par les étudiants. Super, tout ça dans l'ordinateur, c'est très bien, mais il faut maintenant le rendre physique, lui donner une dimension, au-delà, j'allais dire, poursuivre le projet. On est toujours dans une dynamique de projet, donc la chose, elle est pensée. Théoriquement, ça a l'air pas mal sur l'ordinateur avec le logiciel, l'algorithme, mais c'est pas fini.
Oui, en effet, c'est pas fini. Donc, tous ces fichiers sont numérisés, donc nous pouvons conserver notre patrimoine ainsi, mais aussi nous pouvons aussi donc reproduire et pouvoir garder une image, une reproduction de cet escalier qui sera plus facilement transportable.
Et donc après, il faut réaliser l'impression 3D. Comment ça se passe ? Le passage entre la numérisation donc des photos, c'est-à-dire que sur un écran d'ordinateur, on peut voir... alors, vous ne m'avez pas dit escalier en colimaçon, vous m'avez dit escalier...
À double révolution.
À double révolution.
En fait, c'est deux escaliers qui se croisent sans se toucher.
Alors, pour expliquer aux auditeurs auditrices, il faut imaginer un cercle à 360 degrés, coupé en son centre donc par un diamètre par une ligne, et donc le premier escalier commence à 0 degré et le troisième à 180, ce qui fait qu'il y a un décalage qui s'opère en même temps que l'un et l'autre descendent. Ils descendent en même temps, de manière parallèle, mais ne débutent pas au même point, et c'est ce qui permet cette double révolution. Sur l'ordinateur, on avait réussi à voir l'objet en trois dimensions, mais après, il faut donner les instructions à l'imprimante 3D.
Il faut passer par un autre logiciel qui va justement calculer le nombre de couches, car je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'impression 3D par filament, donc ce sont des couches de fils superposés, et le logiciel va calculer donc le nombre de couches à superposer. Voilà.
Et puis donc va réaliser son travail. Ça demande énormément d'heures, j'imagine, pour réaliser un tel prototype.
Oui, alors un plein temps, ça demande un mois, parce qu'il faut compter environ 80 heures pour chaque étage, parce que là, on a trois étages, et donc, imprimé en trois fois, et imprimé en trois fois, mais ce n'est pas le même étage à chaque fois, voilà. Et il faut aussi rajouter 48 heures de nettoyage, car, une fois que c'est imprimé, nous avons énormément, de support parce que l'escalier en lui-même a besoin de support. Pour ceux qui connaissent, on ne peut pas imprimer dans le vide, tout simplement. Donc, il faut un nettoyage en plus.
D'accord, très bien. Alors, on ne peut pas nettoyer dans le vide, c'est-à-dire qu'il y a une partie avec une armature à l'intérieur ?
Oui, tout à fait. Une marche, si on veut imprimer une marche ou deux marches qui se suivent, en effet, ça ne peut pas s'imprimer dans le vide, parce que sinon le fil va tomber.
Mais bien sûr. Ah oui, donc c'est ça qui est complexe dans l'impression 3D, c'est qu'effectivement, on ne peut pas imprimer dans le vide. Et donc, il faut un point de départ qui va permettre de poursuivre, par exemple, la marche suivante. Donc, alors, on peut commencer à la rigueur par la première, mais la deuxième n'aura que le bout de la marche comme support. Et donc, c'est pas bon, ça ne va pas.
Exactement, le fil va tomber. Du support. Et donc
vous enlevez l'excédent, en fait, au final.
Oui,
d'accord. Ah oui, donc il y a encore une intervention humaine qui est nécessaire. Ce nettoyage, il se fait à la main ou par des machines ?
Il se fait par une machine, oui. Heureusement, parce que le travail serait colossal.
D'accord. Oui, sinon, autant le sculpter soi-même.
Oui, tout à fait, c'est là. Vous avez raison.
Très bien. Et vous y avez rajouté des petites... Vous avez des idées, des petits trucs, on va dire, à cette machine ? Alors, c'est non seulement la reproduction de l'escalier à double révolution du château de Chambord, mais il y a un petit plus, alors que nos auditeurs auditrices ne verront pas, mais que vous allez nous montrer.
Oui, tout à fait. Nous avons ajouté un éclairage donc, oui, qui permet justement de rendre un peu plus fun, un peu plus attractif cet escalier. Voilà, donc un éclairage donc, qui va varier du bleu, vert, jaune, il me semble. Et mon objectif aussi, c'est justement quand on s'approche de cet escalier, il y a un capteur qui détecte la présence humaine et ensuite intégrer un haut-parleur qui va justement retracer l'histoire de la reproduction de cette maquette.
Je vous avoue, je vous ai piqué l'idée pour mon idée. C'était le premier épisode quand je vous ai parlé du Spoonie, voilà, avec les capteurs. Parce que j'ai compris qu'il était possible de faire plein de choses avec les capteurs. Et alors, on va rester tout le temps, j'allais dire, dans l'univers de Léonard de Vinci, puisque je rappelle à nos auditeurs auditrices que 2019 était le 500e de sa mort. Hein, Léonard de Vinci qui est donc mort en 1519. Et il y a eu tout un tas d'événements qui ont eu lieu en région Centre-Val-de-Loire, puisque la région Centre-Val-de-Loire est très attaché à l'histoire de Léonard de Vinci, qui est passé non seulement par Chambord, mais également par Amboise. Et là, vous allez nous présenter un robot de type humanoïde. Alors, pour nos auditeurs, il s'agit de la partie supérieure d'un humain, donc son tronc avec ses bras, sa tête, ses épaules, des yeux, des oreilles. Présentez-nous ce robot.
Alors, ce robot humanoïde s'appelle InMove. Il a été conçu et dessiné par Gaël Langevin, voilà, qui est toujours donc avec nous là actuellement. Il est même venu ici à Polytech nous aider. Alors, c'était en 2019. Nous avions toute une équipe d'étudiants qui ont réalisé au total trois robots humanoïdes InMove pour l'exposition Léonard et les robots. Donc, à l'époque, je ne sais pas si vous étiez présents, mais c'était à la collégiale de Saint-Pierre-le-Puy à Orléans.
Oui, oui. Et oui, parce que Léonard de Vinci a inspiré les personnes qui ont créé l'hélicoptère, peut-être aussi. On peut penser à la vie sans fin. Il y avait un aspect, il a exploité l'aspect mécanique des choses dans sa manière de voir le monde. Il a imaginé des hommes volants. D'ailleurs, on parle souvent de robots, mais alors qu'est-ce que c'est un robot? C'est une machine qui exécute des tâches, c'est ça? Qui est capable de, un peu comme le ferait un humain, mais c'est-à-dire que l'humain, lui, a sa pensée. Je vais décider, par exemple, de prendre ma clé, de l'insérer dans une serrure pour faire fonctionner ce mécanisme. Le robot ne va pas penser, il va exécuter la tâche que je lui ai demandée. C'est un peu ça?
Oui, tout à fait.
On est entouré de robots aujourd'hui?
Ah oui, partout, oui. Dans la cuisine.
Oui, 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 bien sûr. D'accord. Et alors ce robot, qu'est-ce qu'on peut lui demander?
Eh bien ce robot, nous pouvons discuter avec lui, c'est vrai que là, plutôt en anglais, hein, parce qu'il va chercher donc sa base de données sur Internet, et donc nous pouvons discuter avec lui. Il a des mains, donc il peut prendre en main une balle donc en mousse. Ensuite, il a des yeux donc qui bougent et une tête, donc il peut tout à fait suivre le déplacement d'une personne. Et dans son œil, il y a une caméra donc qui permet de reconnaître l'interlocuteur avec qui il discutera.
De faire de la reconnaissance faciale.
Et il peut entendre aussi?
Oui, il peut tout à fait entendre. Il a un micro qui permet de nous entendre, voilà, de reconnaître notre voix et les haut-parleurs donc pour nous parler, voilà.
Pour nous répondre, très bien. On peut évidemment imaginer qu'avec ChatGPT aujourd'hui.
Ah ben, avec ChatGPT, il peut répondre à toutes nos questions, hein, ça. Ouais.
Parmi tous les projets que vous avez pu voir au cours de votre vie, parlez-nous d'un projet qui vous a impressionné, assez fou, ou alors une anecdote.
Alors j'ai apprécié justement, c'était un projet sur la reconstruction du pont au niveau du lac du campus, qui permet donc de relier le restaurant universitaire à l'île centrale. Et car ce pont est en bois aussi, justement, on ne pouvait plus du tout y circuler. Et nous avons deux étudiants qui ont travaillé sur la reconstruction de ce pont avec des matériaux renouvelables. Et puis avec tout un système plutôt écologique. Et c'est vrai que cette maquette, j'ai bien apprécié les accompagner à réaliser cette maquette. Oui.
Eh bien, merci Clarisse Novello pour cette visite très instructive. On rappelle à nos auditeurs, auditrices, étudiants, étudiantes qu'ils peuvent contacter le Fab Lab en adressant un courriel à fablab.polytech.univ-6-orléans-sans-accent.fr ou tout simplement contacter le Fab Lab numérique au 02 38 49 45 60.
Et c'est donc la fin de cet instant reportage et surtout la fin de cette semaine passée au Fab Lab. Voilà, il est midi 57 sur Radio Campus Orléans. On va se quitter en musique et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle série d'émissions Écoute ta fac.
All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Scheming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. I tell my mama I love her, but this what I like, Lord knows. 20 of them in my Chevy, tell them all to come and get me. Reaping everything I sow, so my karma come in heaven. No preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster, silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my vices all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po. When the killer's dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow. But we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright.